Leggero con su cubeleza de Celengo.
Bonsoir. Réunion hier au siège de la CENI à Kinshasa du comité technique du processus électoral composé de la CENI, de la MONUSCO, de la communauté internationale et d'autres partenaires. Parmi les points débattus figuraient entre autres le bilan de l'opération de révision du fichier électoral et l'état des lieux des préparatifs des élections générales en RDC. Quel bilan dressé à ce jour de l'opération de révision du fichier électoral? À quelques mois des élections, où en sommes-nous avec les préparatifs? Nos invités dans cette émission sont Maître Moïse Nyarugabo, sénateur de l'opposition et membre du parti politique Rassemblement Congolais pour la Démocratie, RCD. Sénateur, bonsoir.
Bonsoir.
Jonas Tshombela, coordonnateur national de la Nouvelle Société Civile Congolaise. Monsieur Tshombela, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur Jacques Joly, vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Vos réactions, comme d'habitude, nous sont déjà parvenues. Gabriel Nyarkos, Daru, en province orientale. Je félicite le président de la CENI et son équipe pour la réussite de la révision du fichier électoral dans le reste des provinces et les encourage de continuer à respecter scrupuleusement le calendrier établi pour les autres opérations en cours. Papi Kibanja de Goma au Nord Kivu, le bilan de la révision du fichier électoral est mitigé au Nord Kivu. Certains habitants de Walikale n'ont pas tous enrôlé à cause de l'insécurité. Quel sera alors leur sort? Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 58 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Opération de révision du fichier électoral. La CENI vient d'accorder 10 jours de plus à 6 provinces. Il s'agit du Nord et Sud Kivu, de la province orientale, du Bandundu, de l'Équateur et du Kasaï oriental. Pour ce qui est de la ville province de Kinshasa, la CENI souligne qu'elle fera l'objet d'un examen et d'une discussion ultérieure. La CENI profite de l'occasion pour inviter les forces vives de ces 6 provinces à s'impliquer activement dans la sensibilisation des populations sur le fait qu'à l'issue de ces 10 jours, il n'y aura plus de prolongation. Mais pourquoi cette prolongation? La réponse avec le rapporteur adjoint de la CENI, Laurent Ndaye, au micro de Kélin Côté.
Après avoir effectué une évaluation de l'ensemble des opérations dans les 6 provinces, le bureau de la CENI à noter que certains centres ont été déployés avec retard. D'autres ont enregistré un arrêt significatif des opérations en raison des problèmes techniques trouvés. D'autres encore ont bénéficié d'une délocalisation tardive. Pour toutes ces raisons, et dans le souci d'avoir un fichier électoral inclusif et représentatif, le bureau de la CENI a décidé d'accorder à tous ces centres d'inscription de ces 6 provinces un délai supplémentaire de 10 jours allant du 1er juillet au 10 juillet 2011 à 17h précises. À l'issue de ces 10 jours, tous les centres d'inscription de ces 6 provinces seront définitivement fermés et qu'il n'y aura ni distribution de jetons ni aucune autre prolongation.
Professeur Jacques Joly, bonsoir, vous êtes en ligne.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. On vient de le suivre, la CENI a annoncé la prolongation dans les provinces du Sud Kivu, Nord Kivu, province orientale, Bandundu, Équateur et Kasaï oriental. Certes, prolongation qui était souhaitée par beaucoup d'observateurs et les raisons ont été avancées. Mais quel est le bilan que vous dressez à ce jour du processus de révision du fichier électoral?
Le bilan de la première phase de l'espoir de notre processus électoral, à savoir la phase de révision du fichier électoral, est globalement positif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint pratiquement 29 millions d'enrôlés sur les 31 millions attendus et estimés. Donc, nous croyons que nous allons atteindre globalement, avec cette prolongation et le fait d'entraînement sur Kinshasa, nous allons atteindre, n'est-ce pas, ces estimations, pourquoi pas les dépasser. Il reste que derrière ces chiffres, il y a des points noirs sur lesquels nous devons travailler énormément pour que finalement tous les Congolais en âge de voter puissent être enrôlés. Voilà un peu l'objectif sur lequel nous travaillons maintenant.
Alors professeur, quand vous parlez des points noirs sur lesquels vous travaillez, quels sont ces points noirs?
Il y a eu notamment les difficultés d'atteindre tous les points. Vous savez que nous sommes un pays de 2 345 000 km², mais dont les infrastructures routières et autres sont totalement défaillantes. Et il y a eu des difficultés à atteindre ces points. Il y a eu des difficultés techniques au démarrage, tant pour la maîtrise du matériel qui tombait quand tu vois en panne. Il y a eu un problème de socialisation de maîtrise du matériel par nos opérateurs de saisie. Et il y a eu d'autres problèmes, contraintes logistiques et techniques que nous avons essayé de résoudre. Et nous croyons que maintenant nous pouvons optimiser. Il va de soi qu'il y a des problèmes structurels tels que les distances entre les différents centres d'instruction et les problèmes de sensibilisation doivent être aussi intégrés dans cette analyse.
Alors, professeur, pour revenir sur le cas de Kinshasa, quelles sont les causes qui, d'après la CENI, sont à la base de ce faible chiffre de Kinshasa?
Bon, il y a eu d'abord le démarrage difficile du processus et l'engouement de départ a été plus ou moins bouché et les personnes ont cru que ces difficultés continuaient. Or, on assiste à un affaissement des bureaux et des centres d'instruction. Il y a donc ces problèmes de sensibilisation que nous avons évoqués. Et globalement, il y a eu quelques pannes et autres difficultés logistiques qui ont un peu défavorisé le début du processus. Mais je crois qu'avec la sensibilisation que nous avons faite le samedi et surtout l'implication de tous les acteurs, nous pouvons remonter facilement. Aujourd'hui, nous sommes à 74%, voire 75% de l'ensemble de nos estimations. Mais il faut continuer les efforts. Nous regrettons, par exemple, de constater que dans les communes telles que le Lingwala, où il y a apparemment toutes les facilités de mobilité, on a un taux faible d'enrôlement qui avoisine tout simplement 61%. Tout comme à Kitamo, on a 65%. Nous n'avons quand même pas de problème de distance à ce niveau. Donc ici, apparemment, il y a un problème de sensibilisation, voire une désaffection politique, voire un désamour vis-à-vis du processus électoral. Il est donc important que les partis politiques, la société civile et nous-mêmes, nous puissions nous impliquer pour inciter les jeunes, les femmes et toutes les autres personnes à venir s'enrôler. Il va de soi que si nous faisons une telle opération de sensibilisation pour exciter cette demande politique, il faut que nous soyons capables de répondre à notre offre pour qu'il y ait adéquation et qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, assèchement suite, n'est-ce pas, aux difficultés sur le site.
Avant de donner la parole au sénateur Moïse Nyarugabo, professeur Jacques Dioli, il a été fait mention de l'enrôlement des mineurs à Manono, Katanga, et le président de la CENI a samedi annoncé qu'il y avait une enquête amorcée par la CENI et la MONUSCO. Où, à quel niveau se trouve cette enquête?
L'équipe d'enquête multisectorielle est descendue à Manono et à Kalemi. Nous attendons les conclusions de l'enquête et nous mettrons tout cela à la disposition de la presse de manière transparente.
Merci, professeur. On vous garde pendant cette émission. Sénateur Moïse Nyarougabo, juste rappeler que vous êtes sénateur de l'opposition, membre du RCD, parti de l'opposition. Quelle analyse vous faites du bilan de la révision du fichier électoral tel que présenté par la CENI?
D'abord, nous félicitons, nous saluons les avancées qu'il y a par rapport au chiffre que la CENI présente, 29 millions de personnes enrôlées, c'est quelque chose de...
Sur 31 millions attendus.
Oh oui, c'est quelque chose de, qu'il faut saluer. Mais je pense que cela ne suffit pas pour qu'on ferme les yeux devant certaines irrégularités, certaines situations que, comme le professeur venait de l'évoquer d'ailleurs, il les a appelés lui-même des points noirs. Nous restons préoccupés, c'est aussi quelque chose que la CENI ait accordé une sorte de prolongation, mais je ne comprends pas pourquoi la CENI a décidé de prolonger pour 10 jours. Tenez, il y a des coins de la République où les centres n'ont pas encore commencé, n'ont pas encore ouvert. Il y a à l'Équateur des centres qui n'ont ouvert que le 24, ou le 23, ou le 24. Juillet, donc la semaine passée, il y a des coins de la République, à Waikale, où c'est pas encore, pas du tout fait. Il y a des coins de la République dans le territoire de Fiji, par exemple, où j'ai des informations précises. L'équipe devait quitter une localité qu'on appelle Nakiel hier pour aller à Kamombo hier. Donc hier, c'est le 28. Alors, l'équipe qui se sont déplacées le 28 pour aller dans une localité, une grande localité qui devait desservir Kamombo, Mikalati, Kavara et ailleurs, dire que on leur donne 10 jours, avec quelle baguette magique, avec quel miracle, on va faire que tout le monde s'enrôle dans les 10 jours, parce que c'est des grandes distances. Donc je pense que, et je suis convaincu que ce n'est pas seulement à Fiji. Ce n'est pas seulement à l'Équateur, et ce n'est pas seulement en province orientale. Les nouvelles que j'ai, c'est qu'il y a aussi des situations pareilles. Donc, je considère que 10 jours,
ce n'est pas suffisant.
C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. C'est encore que, des fois, les machines arrivent, le temps que les gens commencent à les maîtriser, commencent à les installer, à les maîtriser, commencent. 10 jours, ce n'est pas du tout suffisant. Il y a donc des localités qui risquent, si on suit la décision de la CENI, il y a des localités qui risquent d'être totalement, je veux dire, oubliées, où les gens ne vont pas s'enrôler et donc ils n'auront pas d'élus.
Vous êtes élu de Kinshasa, mais il se pose un problème de sensibilisation à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'acteur politique?
Ce que nous faisons, nous sensibilisons, nous, toutes les fois que nous organisons des réunions, aujourd'hui nous avions des réunions, hier on en a eu, nous essayons de dire à tout le monde de se faire enrôler, c'est tout à fait évident. Mais c'est aussi évident que les gens ne suivent pas. Et je pense personnellement que la grande raison, la raison principale, c'est ce que le professeur a qualifié de désaffection, les gens ne sont pas intéressés. Les gens considèrent que le processus... Aujourd'hui, moi, dans une réunion que j'ai eue, quelqu'un m'a dit, moi, je ne veux même pas voter. C'est un universitaire. Je ne veux pas voter parce que ça ne sert à rien. Alors, vous comprenez, quand on en arrive là, je crois qu'il y a un grand travail à faire. On va continuer à sensibiliser, à mobiliser, parce que les gens considèrent que le processus électoral de 2006 n'a rien apporté, rien n'a changé. On va encore... les embrigader, les amener dans un processus de 2011 qui ne va rien apporter, c'est un peu pour leur faire perdre du temps.
Alors, on comprend qu'il y a, vous sensibilisez à travers des réunions, comme vous l'avez dit, il y a un grand fossé entre la classe dirigeante et la population, mais comment combler ce fossé, parce que c'est un point important dans la sensibilisation, pour redonner confiance à cette population qui doit s'enrôler.
Il n'y a pas une autre magie à faire, c'est le travail que nous faisons, c'est la discussion, c'est l'explication. Je suis convaincu que même celui qui a dit qu'il ne va pas voter aujourd'hui, après la réunion, je suis convaincu qu'il a changé d'avis. C'est ce dialogue qui est important. On ne va amener personne par force dans un centre. On ne va pas ligoter quelqu'un pour l'amener pour se faire enrôler ou pour voter. C'est un droit. Notre mission, c'est d'expliquer, de démontrer que, par exemple, je lui ai dit, que si vous considérez que 5 ans passés, c'était 5 ans de misère, si vous ne vous impliquez pas dans la politique, vous serez enrôlé et voter, les 5 ans futurs risquent d'être pires que les 5 ans passés.
Alors, avant de donner la parole à Jonas Tombela, sénateur Nyarugabo, beaucoup d'observateurs ont également relevé l'absence des témoins, des partis politiques dans les différents bureaux.
C'est vrai que tout le monde le dit, qu'il n'y a pas... En fait, il faut comprendre que nous sommes en train d'aller dans un processus électoral, c'est à peine que nous venons de voter la loi. Cette loi n'est même pas encore promulguée. Et c'est cette loi qui régit tout le processus. Il faut même que la loi elle-même soit promulguée et qu'elle soit vulgarisée, que les gens sachent que pour l'enrôlement, il y a aussi des témoins qui sont prévus, ainsi de suite. On est en train de naviguer à vue. On est en train d'aller dans un processus, mais on n'a pas encore
la boussole.
Donc cette loi n'est même pas encore promulguée. Et c'est cette loi qui explique que même au niveau de l'enrôlement, il y a des témoins. Il y a certainement des gens qui ne le savent pas. Et donc la loi elle-même doit exister, elle doit être promulguée, elle doit être...
Vulgarisée,
je voulais dire.
Jonas Tombela, vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile. Vous avez suivi le professeur Jacques Joly, vice-président de la CENI, et le sénateur Nyarugabo, le sénateur qui pense que 10 jours, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas suffisant pour certaines parties du pays. Quelle est votre analyse?
Oui, il y a beaucoup de contraintes qui entrent en jeu sur cette question. Vous savez, non seulement que ce n'est pas réaliste, mais aussi il y a une contrainte d'ordre constitutionnel, qui le calendrier est très contraignant. Donc il y a tout ça qui est comme problème qui se pose dans le cadre de prolongation. Je suis sûr et certain, je crois, les professeurs ils tiennent compte de tous ces aspects qui entrent en jeu. 10 jours, c'est insuffisant, c'est vrai. Mais peut-être que j'y reviendrai. Par exemple, vous voyez, le cas de Kinshasa, c'est reporté pour la semaine prochaine. Mais il y a de quoi on parle. J'ai suivi le sénateur parler de physique. Mais même ici à Kinshasa, il y a des centres qui sont loin. Et c'est qui sont très loin. Je prends le cas des centres qui à Kinkole, un centre qui est vers Bibwa. Entre Bibwa et Kinkole, c'est de longues distances. Et la population minière a des problèmes. J'ai venu de là ce matin, j'ai rencontré 500 femmes qui m'attendaient, croyant que j'étais de la CENI. Pourtant, je ne l'étais pas, pour les sensibiliser à aller se faire enrôler. Donc, la prolongation, là, est un problème qui est lié au calendrier lui-même, qui est contraignant. Aussi, difficulté d'ordre constitutionnel où on doit respecter le délai constitutionnel. Voilà tout ça, sans trancher avant qu'on prolonge n'importe comment pour ne pas bousculer les lignes de l'autre donnée.
Alors, quand vous parlez du caractère contraignant du calendrier, vous voulez dire que cette prolongation va en fait déranger le calendrier?
Mais il est déjà de prendre un certain nombre de coups. Regarde par exemple le cas de la loi électorale. Elle traîne encore. Elle était censée être publiée depuis le 31 mai. Mais nous ne l'avons pas encore jusqu'ici. Personne ne sait pas comment ça va fonctionner jusqu'ici. Et on a parlé tout à l'heure qu'il faut vulgariser cette loi-là. On va la vulgariser quand on va encore nous prendre des coups. Donc il y a toutes ces contraintes-là qui vont se faire subir ces calendriers. Et toutes ces petites prolongations gauche-droite, tout ça, ça risque de bousculer le calendrier. En fait, c'est pour cela que nous croyons depuis un certain temps qu'il était temps que ces acteurs qui sont en jeu puissent encore se parler pour voir le calendrier là de telle manière qu'on nous amène vers des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées.
Alors, pendant qu'on y est, quel bilan la nouvelle société civile dresse-t-elle de la révision de cette première phase, comme l'a appelé le professeur Joly, de la révision du fichier électoral?
Sans revenir sur les difficultés techniques, le professeur l'a rappelé, le sénateur a encore cité un certain nombre de choses ici, et il y a ces distances qui sont très longues, et quand même il y a certains cas par exemple, où on maîtrise les opérateurs de saisie qui ne maîtrisaient pas, si là où on a dit le cas de sénateur de Talera saisie, disons. À Kinshasa, les opérateurs n'ont pas maîtrisé. C'était chaotique ici à Kinshasa. Les opérateurs de saisie c'est après des semaines qu'ils ont maîtrisé. Mais là, c'est les 18 personnes qui ont consommé à maîtriser d'abord le système. C'est un problème. Donc, il y a cette question de maîtrise de l'outil qui est informatique qui était un problème. Il y a des machines qui tombent en panne. Il y a aussi des problèmes de carburant. Et il y a aussi des problèmes liés aux contraintes. Il faut obtenir l'attestation quand on n'a pas un document à gauche, à droite. Et quand on a le 1100 à la commune, là encore, il faut revenir. Les agents à l'entrée, par moment, ne respectent pas les consignes qui étaient données. La gestion des files d'attente, c'était tout un mécanisme qui tend à décourager un certain nombre de gens. Par exemple, là où j'étais ce matin, les mamans là m'ont dit que c'est depuis deux semaines, trois semaines qu'ils allaient là-bas, il n'y avait pas toujours de solution pour cette question. Je pense que comme ils sont en contact maintenant direct avec le professeur, il doit me rassurer ici que le vendredi à 10h, son équipe sera avec moi à ce niveau-là pour qu'ils constatent eux-mêmes ce qu'il y a comme problème et demande de la population. Ils ont besoin de se faire enrôler, mais ils ne savent pas comment le faire. Il n'y a pas un centre le plus proche. Comment ils peuvent penser pour que nous puissions aider cette population? C'est des milliers. J'ai rencontré ce matin 500 femmes. Alors, quelle est votre évaluation en un mot?
Ah ben, j'ai évalué, je crois que le chiffre attendu, nous sommes en train de les atteindre difficilement, c'est normal, et c'est déjà de bons signaux, mais nous devons aller dans les zones noires, les points noirs, pour chercher à voir comment nous pouvons encore puiser dedans et maximiser les choses pour que tout le Congolais participe à la grande décision qu'ils vont prendre dans quelques jours.
J'ai posé la question au professeur Joly concernant l'enquête sur l'enrôlement des enfants à Manono. Il a dit qu'il y aura les résultats seront communiqués à la presse dans toute transparence. Au niveau de la nouvelle société civile, qu'est-ce que vous faites de votre côté pour vous assurer effectivement que cette enquête est en cours et qu'elle se déroule dans des bonnes conditions, qu'il y aurait des résultats?
Je crois que, comme le professeur l'a affirmé tout à l'heure, ils nous ont affirmé aussi que tout le résultat de cette enquête sera rendu public, donc tout le monde saura ce qui sera dit sur place. Et nous sommes en train de suivre cette question des enfants. Tout le monde a vu la photo qui a circulé le monde entier de ces enfants qui étaient enrôlés, mais nous voulons voir le résultat là. Et qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ont commis ces choses? C'est là que ça pourra nous intéresser pour qu'on puisse donner une leçon une fois pour toutes de la lutte contre l'impunité. Parce qu'il y a des gens dans ce pays qui se permettent d'enrôler des enfants. L'utilisation des enfants dans ces conditions vraiment minaires, c'est quelque chose à regretter. Nous ne pouvons pas anticiper les choses. La présomption d'innocence est encore en jeu. Nous attendons le résultat. Le professeur vient de nous rassurer que c'est dans toute transparence et nous le croyons.
Professeur Jacques Joly, 10 jours, est-ce réaliste, est-ce suffisant? Et cela n'aura-t-il pas des conséquences sur le calendrier électoral?
Non, je partage la vie des amis. 10 jours, dans le contexte dans lequel nous travaillons, c'est vraiment quelque chose qui ne peut peut-être pas résoudre l'ensemble des questions. Moi-même, je viens de la province de l'Équateur, où j'ai vu les contraintes sur le terrain, tout comme les autres collègues du bureau, Madame Mémouzi rentre d'ailleurs au Kivu, pour aller essayer de la contrer les problèmes soulevés par l'honorable Yaogambo, à Fizi, à Oudikale et à Limbé. Alors, là, il y a encore, au-delà des contraintes de distance et de matériel, nous avons des contraintes sécuritaires. Vous savez, à Oniga, par exemple, nous ne pouvons pas atteindre ce point qu'avec des hélicoptères, et pas un seul hélicoptère, il faut deux ou trois, parce que les points sont infestés de groupes armés irréguliers. Et lorsqu'il faut envoyer un kit ou des équipes de réparation, il faut s'entourer de toutes les précautions sécuritaires. Moi-même, pour atteindre un peu comme Bolomba, il faut que la MONUSCO puisse nous aider avec l'hélicoptère, parce que dans ce coin-là, il n'y a plus de véhicules qui arrivent. Il y a même des coins où vous ne pouvez ni atteindre par moto, par vélo, il faut transporter les kits. À même la tête des hommes et des femmes. Donc, ce sont des contraintes réelles, mais comme a souligné notre ami Tondela, il y a des contraintes de calendrier. Et je crois que nous sommes dans un processus, dans une expérience démocratique, nous avons connu 2006, nous avons connu 2011. Il faut qu'on comprenne que les élections font partie d'un complexe global qui intègre la dimension institutionnelle, qui intègre la dimension même économique avec la pauvreté et autres, et qui intègre en fait la dimension technique qui est le déploiement du matériel que nous faisons et la révision du territoire. C'est vraiment le avec un cœur qui pleurait que je voyais des centres en plein forêt où la machine est tombée en panne et qui peut attendre un technicien qui est en Bandaka, mais qui ne peut pas joindre ce point parce qu'il n'y a pas de moyens de communication ou de transport normal qui arrive là-bas. Ce sont des contraintes, mais il y a le contraint des calendriers. Il y a une question de fort. Mais qu'il faut aller au-delà, réfléchir sur la problématique d'avoir un fichier d'état civil sérieux dans ce pays. Donc, il faut que nous puissions saisir la fenêtre d'opportunité des élections pour analyser l'ensemble des problèmes que nous avons.
Merci.
Et intégrer les élections comme un élément de management et d'accession à une bonne gouvernance politique et globale.
Merci.
Alors, si je viens à la question de Libye, là, c'est vrai, on peut peut-être trouver des mamans qui ne sont pas enrôlées, mais je suis allé enseigner à Baloukoua plusieurs reprises. Il y a un problème de ruralité. Les mamans vont au champ à partir de 4 heures. Les bureaux ne sont pas encore ouverts. Elles rentrent vers 20 heures, les bureaux sont fermés. Et elles viennent tous enrôler le week-end. Là, nous devons travailler avec la société civile pour convaincre et sensibiliser. J'ai été à Boussine, du côté de Karawa. C'est la saison de culture, on est en train de faire le récolte de l'arachide. Il faut convaincre ces personnes qui ont été bénies à voler, malgré l'intérêt lucratif de la culture de l'arachide.
Merci.
Donc, tout ça, il faut travailler sur tous ces axes-là.
Merci. Sénateur Nyarugabo, vous venez de suivre la réponse du professeur Jacques Doli à votre crainte, pratiquement.
Non, il est d'accord avec nous. Donc, on ne veut pas y revenir. Je considère simplement que les compatriotes de Walikale, les Congolais de Bolomba, de Kamombo, d'autres localités de la province orientale et même de Kinshasa ont les mêmes droits que les autres Congolais qui ont eu 60 jours, 90 jours. Là où, à Bolomba, d'ailleurs, j'ai eu justement de l'information que c'est à Bolomba que les centres devaient ouvrir le 24. Alors, vous leur donnez 10 jours, sur base de quoi? Et pourquoi elles n'ont pas droit à ces 60 jours? Il y a même d'autres provinces où on a eu 3 mois, donc 90 jours, et même des prolongations. Et d'autres localités où on va juste leur donner 10 jours, c'est pas correct, c'est pas régulier. Alors, on parle des contraintes constitutionnelles par rapport au calendrier. Je suis d'accord qu'on en tienne compte. Mais alors, allons jusqu'au bout de la logique. Si vraiment nous devons avoir les élections et la CENI peut nous garantir que le 6 décembre nous aurons un nouveau président, là, on peut, je ne peux pas dire qu'on peut se mettre d'accord de fermer les yeux, mais là on comprendra qu'il y a vraiment des contraintes constitutionnelles liées au délai constitutionnel et au calendrier. Mais si on prive à ces Congolais le droit de se faire enrôler, donc le droit de voter, et le droit d'avoir finalement la fameuse carte d'électeur qui est une carte d'identité, et ne pas respecter le délai, ne pas avoir un président de la République qui prête serment le 6 décembre, alors on aura quand même violé la Constitution, on n'aura pas respecté le délai constitutionnel, et on aura privé à ces Congolais leur droit le plus légitime de se faire enrôler et de participer au vote.
Et vous souhaitez qu'il y ait des concertations, donc?
Ah, il faut... Moi, je pense que la CENI doit assumer ses responsabilités. C'est la CENI qui doit nous aider. Si la CENI estime qu'il y a, au niveau du processus, au niveau de l'enrôlement, de l'inscription des Congolais, il y a des problèmes, il y a des points noirs, mieux vaut s'arrêter maintenant, au lieu d'aller aux élections avec des points noirs. Ces points noirs devaient être éclairés avant d'aller aux élections. Ah, donc la CENI, à mon avis, devait assumer ses responsabilités et nous démontrer qu'il y a des vrais problèmes pour lesquels la CENI a besoin d'autant de temps pour les régler. Et c'est mieux d'aller aux élections
apaisé, c'est mieux d'aller aux élections. Lorsqu'on a bien balisé le chemin, que d'y aller simplement comme ça, et surtout si on ne respectait pas scrupuleusement le délai.
Je me soumets là à Mme Agnès de Kinshasa qui pose la question, pourquoi la CENI ne prend aucune mesure contre les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition qui visiblement procèdent déjà à la propagande ou en campagne électorale alors que ce n'est pas encore la période indiquée?
Oui, merci. Mais la CENI elle-même n'a pas encore la loi électorale. Vous voyez, madame, la CENI, elle est en train de travailler sur les dimensions techniques des réalisations des grands projets qu'ils ont à main. Ils n'ont pas encore la loi électorale et tout ce qu'il y a comme annexe lié à cette loi, ça traîne. Donc, il faut encore que madame prenne patience, mais c'est quelque chose qu'il faut décrire. Il y a une autre dimension, vous savez, dans cette affaire, je crois, c'est au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et c'est la seule question qui devait être résolue. Donc, cet organe-là n'est toujours pas mis sur pied. C'est clair que les politiciens, les acteurs qui seront compétents, n'arrivent pas à réclamer cette institution. Nous, nous sommes une institution qui doit réglementer comment on doit conduire la campagne électorale. Maintenant, c'est, ou bien parce qu'ils comprennent qu'il faut bien faire, ce n'est pas en commençant la campagne qu'on pourra gagner nécessairement. Donc, il faudra que cette institution soit mise sur pied. Mais curieusement, personne ne s'y intéresse, mais ce n'est même pas l'affaire des acteurs qui seront en compétition dans les tout prochains jours. Donc, c'est à ce niveau que cette question devait se régler. La haute autorité des médias, qui n'a plus encore de pouvoir essentiel, est en train d'attendre l'autre organe qui doit la remplacer, mais ça traîne. Et là, il y a le problème. En tout cas, encore une fois de plus, nous, on appelle à ce que cette élection soit encore discutée, parce que nous devons aller aux élections avec cette élection-là.
Alors, pour déjà passer à la deuxième partie de cette émission, à quelques mois des élections, où en sommes-nous avec les préparatifs au niveau de la nouvelle société civile? Quel est l'état des lieux que vous faites les préparatifs, en attendant peut-être que le professeur Joly donne d'autres précisions?
Écoutez, nous, un petit mot là seulement, ce que le sénateur venait de dire tout à l'heure, hein, un petit mot quand même, sur les contraintes constitutionnelles et aussi le calendrier qui est contraignant, mais c'est encore une fois de plus ce qui nous donne, nous, à la nouvelle société civile, raison, parce que nous continuons à croire aux concertations entre les acteurs qui seront en compétition très prochainement pour qu'un consensus se dégage sur ce calendrier, puis les points noirs que le professeur a évoqué tout à l'heure. Je crois que c'est la CENI qui doit bousculer et les expliquer ça de telle manière à ce qu'ils prennent conscience. Il ne faut pas aussi qu'ils se mettent dans une histoire où ils vont nous amener vers des situations qui vont encore troubler la paix qui est déjà précaire. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire au niveau de la société civile? Nous sommes actuellement à Kinshasa très engagés dans la sensibilisation. C'est depuis le 21 que nous sommes très engagés dans toutes les 24 communes, dans les rues, dans le marché, le porte-en-porte. Nous sommes engagés sur la sensibilisation d'abord de la population pour aller prendre leur carte qui fera office de pièce d'identité à tout moment. Nous sommes aussi très engagés pour voir comment nous allons continuer cette sensibilisation, cette éducation civique électorale de la population, comment on peut voter, qui voter. Et un projet sera bientôt lancé pour que les acteurs qui seront en compétition s'expliquent un peu devant la population sur un certain nombre de choses qu'ils pensent faire de ce Congo, c'est très prochainement. Nous serons engagés sur la question de l'observation des élections pour observer ces élections, les rendre aussi plus crédibles, sinon ça n'aura plus de sens. Voilà. Comme la nouvelle société civile est membre de la grande famille société civile de notre pays, elle sera engagée sur ces trois questions, la sensibilisation, l'éducation civique électorale et l'observation des élections, mais aussi parce que nous allons, la participation citoyenne suppose aussi que nos élus nous rendent compte. Donc nous serons à penser avec eux sur cette question pour qu'ils nous rendent compte dans les restes du temps.
Professeur Jacques Joly, je veux juste rappeler que vous êtes vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Professeur, en ce qui concerne les préparatifs, vous le savez, le mandat de la MONUSCO a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2012 à travers la résolution 1991 et la MONUSCO prêtera son concours logistique. Hein. Est-ce que cela rassure la CENI par rapport au déroulement des opérations?
Tout à fait. La MONUSCO est un partenaire privilégié. Vous savez que l'ensemble du schéma logistique de la CENI repose pratiquement sur cette collaboration. le déploiement du matériel de Kinshasa jusqu'au défendus sous zone, c'est-à-dire les sites où sont installées nos antennes, c'est grâce à la MONUSCO. Et il était important qu'on puisse avoir cette base juridique internationale pour l'action avancée.
Alors, professeur, à part l'aspect logistique, quel est l'état des lieux de votre préparatif des élections à quelques mois de ces scrutins?
Je crois qu'il y a trois piliers fondamentaux dans un processus électoral. Il y a cette dimension politique sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est-à-dire renforcer le dialogue participatif entre les différents acteurs. Nous avons eu les consultations avant les calendriers, nous avons eu le colloque à la halle de la Gombe, et maintenant nous sommes en train de préparer la mise en place du forum des partis politiques comme cadre de consolidation du consensus électoral entre acteurs politiques.
Deuxième pilier.
Le deuxième pilier, c'est le pilier technique qui comprend tous les préparatifs techniques. Après la révision du fichier électoral, il faut maintenant planifier le déploiement de la pépinière électorale, c'est-à-dire les urnes, les isoloirs et autres matériels dans les dépôts. Ce travail commence à partir du 1er juillet. Et après, il faut que nous donnions, n'est-ce pas, les annexes à la loi électorale, la loi électorale que nous attendons tous, Moïse, moi et notre ami Tombéa.
Troisième pilier.
Troisième pilier, c'est le pilier sécuritaire. Les électeurs exigent non seulement un cadre pour des élections justes, libres et transparentes, mais nous voulons des élections apaisées et sécurisées.
Merci.
Et pour cela, il faudra qu'on y travaille avec tous les partenaires nationaux, formels et informels.
Merci, professeur. Maître Moïse Nyarougabo, je rappelle que vous êtes sénateur de l'opposition et membre du parti politique Rassemblement Congolais pour la démocratie. Vous avez suivi les trois piliers énoncés par le professeur Djoli en ce qui concerne les préparatifs des prochaines élections. Quelle est votre analyse?
Autant je suis d'accord avec lui sur le principe, sur les trois piliers qui sont, comme il les a qualifiés lui-même, des fondamentaux, c'est tout à fait vrai. Mais je suis inquiet sur l'évolution, sur les préparatifs effectifs au niveau de ces piliers. Le dialogue, la CENI fait beaucoup d'efforts à rencontrer les partis politiques et les autres acteurs, ça il faut le reconnaître, c'est peut-être ce que la CI n'a jamais fait, et ça il faut le mettre à leur compte, au compte des animateurs de la CENI. Cette façon de garder le contact avec les opérateurs politiques, les partis politiques et autres, c'est quelque chose de positif. Encore faudra-t-il qu'ils tiennent compte des observations que les partis politiques font, parce que des fois ils peuvent venir nous écouter et puis ils partent, ils font ce qu'ils veulent, pas, ils veulent faire. Mais j'insiste sur le pilier technique. Le vice-président de la CENI dit que de ce côté-là, ils vont commencer à déployer le matériel à partir du 1er juillet. Moi, je me dis, mais le 1er juillet, c'est après-demain. Mais il n'y a pas encore de loi électorale. Il n'y a pas encore d'annexe. Donc, il n'y a pas encore de circonscriptions qui sont définies et de sièges. Mais ici, ce qui m'intéresse, ce sont les circonscriptions. On va déployer le matériel où? Donc, je pense qu'on risque de mettre la charrue avant les bœufs. Il me semble que, qu'on le veuille ou non, le calendrier de la CENI risque de connaître un retard, parce que déjà la loi n'est pas là, l'enrôlement n'est pas en train de se terminer comme c'était prévu, et il faut savoir qu'il y a aussi le temps de corriger les listes, d'enlever les enfants, les doublons, je crois que ça prend aussi du temps avant de pouvoir passer aux annexes de la loi. Alors, je pense que ça doit attendre ce travail-là.
Jonas Tombéa, vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Le sénateur Nyarougabo a émis des inquiétudes par rapport au déploiement du matériel. Il pense qu'on mettrait la charrue avant le bœuf. Il y a également l'aspect sécuritaire. Quelle est votre analyse par rapport à ces deux aspects?
Oui, je crois que
Je concède ce que l'honorable dit, ces inquiétudes, surtout nous sommes tous maintenant, même le procès, tous nous appelons la loi et très vite, là où il traîne, qu'il fasse quelque chose. Mais il y a aussi cet aspect que je voudrais que le procès tienne compte de l'existence des forces vives, la société civile, parce que quand bien même on est exclus dans la commission, nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer la vulgarisation des textes. Nous devons, ça doit être une priorité dans leur démarche, ils doivent tenir compte de cela. Parce que si ce n'est pas bien maîtrisé, ce n'est pas la population, ça risque d'être aussi une contrainte qui peut encore faire bousculer les choses dans l'entendement et susciter des tensions dans la population inutilement. Donc, ils doivent tenir compte de l'existence de la société civile dans le cadre de la vulgarisation des lois essentielles qui, je parle aussi à l'essentiel, à la loi électorale. Donc, ça doit être aussi un des piliers essentiels, au-delà des concertations que nous souhaitons d'ailleurs entre les acteurs qui se rencontrent dans les acteurs politiques.
Alors, le troisième pilier du processus électoral, souligné par le professeur Joly, c'est le pilier sécuritaire. La sécurité est-elle de mise en 2006, il y avait une grosse machine sécuritaire fort, différentes forces, et maintenant là.
Oui, mais c'est là, il y a la CENI. Ils sont en train de travailler sur la dimension technique par force politique, mais il y a aussi le gouvernement et la communauté internationale qui doivent s'impliquer sur cette question de sécurité, parce que la protection des personnes de leur bien, c'est notre territoire, l'air du gouvernement, de notre pays. Donc, le gouvernement doit aussi nous montrer le plan de sécurité qu'il compte mettre sur pied pour la sécurisation de ce processus électoral. Je crois que la communauté internationale est en train de donner le temps sur un certain nombre de choses. Il y a la MONUSCO qui est sur place, qui aide déjà, mais que notre gouvernement aussi montre un plan. Vous voyez, le professeur a évoqué le cas d'un coin où on ne pouvait pas aller. On pouvait aller avec l'hélicoptère et prendre toutes les mesures qu'il faut pour y arriver. Donc, il y a aussi ça qui doit être discuté au niveau gouvernemental. Et ça ne doit pas être une discussion qui se passe entre le gouvernement et ça s'arrête là. Ça doit être rendu public pour que tout le monde sache à quoi s'en tenir le moment venu. Parce que nous tenons à la paix pour ce pays.
Professeur Jacques Joly, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Nous tendons déjà vers la fin. Il faut conclure. Professeur, il y a deux points qui ont été soulevés par le sénateur Nyaru Gabo et Jonas Tombela. Les concertations politiques. Quel est le point de vue de la CENI à ce sujet? Et il y a la CENI a-t-elle déjà le financement qui convient pour les opérations?
Non, je crois qu'en ce qui concerne les concertations, c'est un schéma sur lequel nous sommes totalement engagés, parce que sans un accord global des acteurs politiques pour aller vers des élections apaisées, il est difficile d'asseoir un processus électoral crédible et apaisé. Voilà pourquoi, je crois, le 12, nous allons mettre en place d'abord le comité national de médiation et les forums des partis politiques, ce qui va nous amener à amener le parti à signer un code de bonne conduite et à asseoir la déontologie électorale entre tous.
Et le financement?
Il n'y a pas beaucoup d'inquiétudes parce que l'ensemble du financement relatif au fichier a été pratiquement bouclé. Maintenant, pour le processus électoral global, vous avez suivi que le gouvernement nous a avancé 20 millions et il promet 20 millions cette semaine.
Merci.
Nous croyons que cette bonne foi va continuer jusqu'au bout parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait des élections et qu'il n'y ait pas vide de légitimité.
Merci.
Tout comme la communauté internationale nous a donné déjà par l'Union européenne un montant qui avoisine 60 millions et le reste va suivre.
Merci professeur. Sénateur Nyaru Gabo, un mot sur l'aspect sécuritaire et en guise de conclusion.
L'aspect sécuritaire reste un des problèmes les plus délicats et qui n'est pas du tout résolu jusqu'aujourd'hui. À part, il y a des questions des médias. Comme on l'a dit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas mis en place. Et c'est comme ça qu'il y a des campagnes précoces avec les moyens de l'État. L'armée, est-ce que l'armée est vraiment neutre? Est-ce qu'elle est conditionnée à assumer ses responsabilités dans la neutralité? La police, l'administration, on voit toujours des mandataires avec des écharpes et des partis politiques alors qu'ils doivent être neutres. Donc, toutes ces questions, c'est le climat et l'environnement politique. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement. Mais nous ne le voyons pas agir
et cela nous inquiète.
Je me souviens de la conclusion.
Oui, oui, je crois qu'en termes de conclusion, je demande seulement au procès d'écouter les Chinois et Chinois qui sont dans les derniers jours de telle manière à ce que le vendredi, on puisse voir comment on peut résoudre la question des collègues qui sont à Bibois et pour qu'on nous amène vers des élections libres, démocratiques, transparentes à travers tout le pays.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, chers auditeurs et internautes, de nous avoir suivis. Restez branchés sur Radio Kati. Bonne fête d'indépendance à tous pendant qu'on y est. Au revoir. Thank you.